Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Et le top ou le flop de la semaine, Christopher Demick.
Ce sera le Japon, le marché boursier japonais.
Top ou flop?
Top, pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Voyons. qui a connu la semaine dernière le plus important flux de capitaux en provenance des marchés étrangers sur le marché boursier japonais depuis octobre 2021. Et on sait depuis à peu près un an et demi, il y a un renouveau du marché boursier
japonais. C'est incroyable. Incroyable ce marché qui a été vraiment le marché dont personne ne voulait. Ouais. Le dernier haut, je l'ai vécu, c'était en décembre 89. Et là, c'est devenu coqueluche. On a l'impression que c'est un pays émergent, le Japon.
Et ça va continuer parce que les rachats d'actions aussi au Japon expliquent en partie la performance. Vous avez des entreprises qui ont énormément de cash, elles investissent, on a eu les plus importantes hausses de salaire depuis plusieurs décennies, donc il y a un contexte qui est très favorable.
C'est incroyable.
C'est un marché qui est complètement à l'écart du reste du monde, donc on ne peut pas créer de lien et on voit que les flux entrants sont quand même massifs.
Il est à l'écart du reste du monde, mais c'est un indicateur très intéressant parce que d'un point de vue démographique, c'est un peu ce vers quoi on tend et on s'était dit bon, que finalement une économie avec une démographie morte, c'est un pays mort et ils nous l'ont démontré pendant 20 ans. Et puis il y a un jour où finalement, ça joue plus.
Et on voit générationnellement justement que les comportements de consommation, d'investissement et d'épargne des nouvelles générations au Japon aussi ont complètement changé. Donc c'est vraiment un laboratoire assez intéressant parce que d'ici quelques décennies, c'est ce qui nous interviendra en
pour la démographie. Votre top ou flop est beaucoup plus intéressant que celui de Louis. Louis.
Je suis étonnée qu'il vienne encore.
Oui, moi aussi, presque.
Mais moi aussi, j'hésite à chaque fois.
Moi, c'est la consommation énergétique de l'IA générative. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les traitements de données dans le monde consomment à peu près 2% de l'énergie mondiale. Il est prévu à horizon 2030, si on continue sur la tendance actuelle, qu'on soit à 7,5%. Et 7,5%, c'est presque une multiplication par 5 ou 6 de la consommation énergétique. Et en fait, effectivement, l'IA générative, qui est une révolution massive et qui va changer nos vies, pas uniquement par Nvidia, mais moi je pense plus par le logiciel qui va entraîner des gains de productivité massifs, on risque d'avoir un problème sur la production d'énergie. On voit que Amazon a signé des contrats à terme pour 2,5 gigawatts d'électricité avec un producteur de nucléaire. Et donc, est-ce que l'IA générative, à un moment ou l'autre, va rentrer en concurrence avec les particuliers sur le marché de l'électricité ou est-ce qu'on va produire beaucoup plus d'électricité suite au prochain numéro ?
Stéphanie, le top ou flop de la semaine?
Oui, ben je reste dans la lignée de l'énergie, hein, parce qu'effectivement, ben, mon top, c'est Total, qui est sur ses plus hauts historiques. On est à 67,30 € aujourd'hui. Ils ont fêté leurs 100 ans cette année. Patrick Pouyanné a donc donné à ses salariés, à tous ses salariés, à 100 000 salariés dans le monde, 100 actions gratuites, à partir de condition de rester dans le groupe encore un petit moment. Mais voilà, et donc, on a cet acteur qui est à la fois vraiment détesté dans la rue parce que c'est encore associé à l'Erica.
Détesté dans la rue, pas que détesté dans la rue, détesté aussi par les gérants.
Par les gérants, parce qu'effectivement, toutes ces...
Il y a plein de gérants qui ne peuvent plus le mettre en portefeuille.
On est d'accord. Et en même temps, quand on regarde Total, un tiers de ses investissements va vers le renouvelable et ils sont aujourd'hui le plus grand investisseur dans l'énergie solaire. Donc c'est l'équivalent de 22 centrales nucléaires en solaire aujourd'hui exploitées par Total. Donc voilà, on a besoin de cette énergie. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a eu un sous-investissement massif toutes ces dernières années pour le pétrole et le gaz. On voit bien que chez SPI, chez Vinci, il y a beaucoup de projets qui ressortent d'appels d'offres pour remettre en route des nouvelles plateformes, des nouveaux sites en offshore, onshore. Donc
on est sur quel type de rendement pour le dividende?
Total, alors ça vient de bien monter, mais on est autour de 5% et on n'est jamais à l'abri de quelques distributions exceptionnelles dont ils sont assez coutumiers. Et c'est vrai qu'ils ont surperformé depuis sur longue période BP, Eni, Shell, 5, 10, 15 ans, et c'est incomparable dividende réinvesti Total. Donc,
oui, une vente à l'envers, un Total, c'est une valeur, vous dites quoi sur Total? Vous dites oui, pourquoi pas, enfin c'est pas mon...
À titre personnel, oui, tout à fait. Ouais. En fait, ce dont vous parliez tout à l'heure, les gérants ne détestent pas Total, c'est le régulateur qui déteste Total, qui force les gérants à faire n'importe quoi avec l'ESG. Mais oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une carence de pétrole, que finalement la transition énergétique va mettre plus de temps que prévu. Donc c'est évidemment, et on parlait de rubis tout à l'heure, moi j'en ai acheté le jour où Bolloré est rentré dedans. Oui, c'est aussi des produits pétroliers.
Denis.
Enveloppe, l'influence géopolitique américaine. Cette semaine est sorti un sondage que fait chaque année l'Institute for Southeast Asian Studies, donc qui interroge des décideurs dans les pays de l'ASEAN, donc les pays d'Asie du Sud-Est, sur quelle cause qu'ils choisiraient s'il devait y avoir une confrontation entre évidemment la Chine et les États-Unis. Et l'année dernière, donc c'était à 61% que les dirigeants de l'ASEAN, enfin des décideurs, c'est pas des politiques, mais des décideurs dans les administrations, dans les entreprises, à 61% ils votaient pour les États-Unis, à 49% cette année ils votent les États-Unis.
Ah ouais ?
Donc il y a un basculement qui est en train de se faire. Est-ce que c'est une inquiétude et que l'on se dit que le voisin qui est quand même beaucoup plus près est peut-être plus géant, il vaut mieux se sentir proche, mais en tout cas ça reflète peut-être une forme de basculement.
C'est vraiment le contraire, ça veut dire qu'avec tout ce qui s'est passé à Hong Kong, avec les menaces sur Taïwan, les gens...
Exactement, c'est assez surprenant, surtout qu'il faut se rappeler que l'ASEAN c'est une construction américaine qui a été mise en place au moment de la guerre du Vietnam pour contenir justement l'influence.
Savait, mais dites-le à Louis parce qu'il le savait pas.
Ouais.